Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le FBI conteste les accusations de Donald Trump qui affirme avoir été espionné par Barack Obama. Les explications de notre correspondant à Washington, Frédéric Carbone, dans un instant. Angela Merkel envisage d'interdire les prochains meetings turcs en Allemagne. La chancelière en a assez de se faire traiter de nazi par le président turc Erdogan. Cyril Sauvageau nous appellera de Berlin. La campagne présidentielle française, les 5 candidats en tête des sondages débattent ce soir sur TF1. Premier extrait dans ce journal avec les ambitions présidentielles de François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Invité de ce journal, Laurence Rossignol, ministre des Familles. Laurence Rossignol veut limiter l'accès des adolescents à la pornographie sur Internet. C'est un revers pour Donald Trump. Le directeur du FBI a publiquement contredit aujourd'hui le président américain qui avait accusé son prédécesseur Barack Obama de l'avoir mis sur écoute pendant la campagne présidentielle. James Comey s'exprimait devant une commission d'enquête de la Chambre des représentants. Il a expliqué n'avoir à ce jour aucun élément prouvant un quelconque espionnage ordonné par Barack Obama. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
C'est une scène tout à fait inédite dans l'enceinte du Congrès américain. Voilà donc le patron du FBI qui vient démentir sans la moindre ambiguïté l'accusation d'un président des États-Unis visant son prédécesseur. Concernant les tweets du président sur des hypothétiques écoutes, je n'ai aucune information à l'appui de ces tweets et nous avons soigneusement tout regardé. Et James Comey ajoute que le ministère de la Justice est parvenu au même résultat. Le directeur de la NSA balaye pour sa part la mise en cause des services britanniques par le porte-parole de la Maison-Blanche. Personne n'a demandé de mener de telles écoutes et la Grande-Bretagne est notre principal allié. C'est bien le seul point de ce vaste dossier russe sur lequel les super espions sont affirmatifs et précis. Pour le reste, il faut se contenter de la confirmation d'une enquête sur des liens éventuels entre des proches de Donald Trump et des Russes. Mais je m'excuse de ne pas pouvoir en dire plus, prévient le patron du FBI. Il ne répond ainsi à aucune question des démocrates sur des personnes en particulier. Quant aux républicains, ils s'intéressent essentiellement aux fuites dans la presse. Le seul crime avéré, selon eux, c'est pourtant sur des propos tenus dans des médias que Donald Trump s'est appuyé pour porter ses accusations sans fondement.
Frédéric Carbone, merci. Les jours passent et Recep Tayyip Erdogan accentue ses attaques contre l'Allemagne, coupable d'avoir annulé des meetings de ses ministres sur le sol allemand. Le président turc a accusé ce week-end Angela Merkel de pratiques nazies et la presse pro-Erdogan n'a pas hésité à grimer la chancelière en officier de la Wehrmacht. Angela Merkel commence à perdre patience en visite aujourd'hui au salon de la technologie d'Hanovre. Elle a envisagé d'interdire les prochains meetings de l'AKP, le parti d'Erdogan en Allemagne. Cyril Sauvageau.
Comment répondre à la énième provocation de Recep Tayyip Erdogan? Jusqu'à présent, dans le bras de fer qu'il oppose au président turc, Angela Merkel a pris soin de ne pas tomber dans la surenchère. Selon Berlin, ce serait faire le jeu du régime d'Ankara qui cherche à tout prix la polémique pour se poser en victime. Mais pour la première fois aujourd'hui à Hanovre, la chancelière a laissé entendre qu'elle pourrait changer de stratégie. Les meetings de l'AKP prévus en Allemagne d'ici au référendum du 16 avril pourraient être remis en cause. Le gouvernement allemand se réserve le droit de examiner les autorisations si la tenue de ces meetings ne se passe pas dans le respect de la constitution allemande. Jusque-là, les autorités fédérales avaient refusé d'intervenir, laissant aux communes compétentes en la matière la liberté d'accepter ou non la tenue de ces meetings. Mais l'escalade verbale du président turc et ses accusations répétées de pratiques nazies pourraient bien pousser l'Allemagne à durcir le ton à son tour.
Cyril Sauvageau, correspondant à Berlin, envoyé spécial à Hanovre. Pour la première fois, l'Église catholique reconnaît une part de responsabilité dans le génocide rwandais. 800 000 Tutsis massacrés en 1994 par le régime Hutu, alors au pouvoir à Kigali. Le pape François a imploré aujourd'hui le pardon de Dieu pour les péchés et les manquements de l'Église et de ses membres lors du génocide. Le souverain pontife l'a fait en recevant au Vatican l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame. Benoît Bouscarel, ce geste du pape François a été bien accueilli par les défenseurs des victimes, même si certains estiment que l'Église doit aller plus loin.
En novembre dernier, les évêques rwandais avaient eux aussi imploré le pardon pour le rôle joué par de très nombreux membres de l'Église catholique pendant le génocide, mais sans mettre en cause l'institution elle-même. Dans sa déclaration, le pape, qui ne va pas jusqu'à reconnaître une responsabilité directe du Vatican, prend donc plus de risques. Cela dit, pour Christian Terrasse, fondateur des éditions Goliath, qui prépare un dossier sur les prêtres génocidaires encore en activité au Rwanda, cette demande de pardon reste insuffisante.
Le pardon est vain. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas la justice. Et comme dans les affaires de pédophilie, l'Église catholique a souvent imploré le pardon, mais sans faire passer la justice ecclésiale, ni la justice humaine. Et avec le génocide rwandais, on est exactement dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on implore le pardon, mais on ne fait pas passer la justice.
Difficile d'établir des chiffres exacts, mais de nombreux prêtres impliqués, et souvent directement génocidaires, ont été déplacés après 1994, protégés, couverts par l'Église, qui ne doit pas s'en tenir à un pardon facile. C'est aussi l'avis d'Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
Ça devrait être aussi un message envoyé à l'Église du Rwanda et, je serais tenté de dire encore plus précisément, à l'Église de France, qui jusqu'à maintenant, je dirais malheureusement, est restée quand même sourde à tous nos appels concernant la présence de prêtres en particulier qui seraient visés par des plaintes ou qui auraient participé au génocide. L'Église de France est restée jusqu'à maintenant relativement sourde à tous nos appels.
En France, plusieurs prêtres rwandais sont toujours soupçonnés par les associations de victimes d'avoir fait partie des génocidaires actifs. Deux, au moins, sont toujours en activité dans leur paroisse.
Benoît Bouscarel, merci. Venons-en maintenant à l'événement politique du jour dans la campagne présidentielle. Le premier débat télévisé ce soir sur TF1, un débat limité aux 5 candidats favoris des sondages. Dans l'ordre, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Rappelons que le Conseil d'État avait rejeté le recours du candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan qui conteste ce débat qui exclut les 6 autres qualifiés pour le premier tour. On va tout de suite écouter un premier extrait de l'émission sur les ambitions présidentielles de chacun des candidats. Vous allez entendre successivement François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Je serai le président qui placera la France sur un chemin qui la conduira à être en moins de 10 ans la première puissance européenne. Je serai le président qui protégera les Français contre les désordres et les violences intérieures et extérieures. Intérieures parce que l'insécurité n'a cessé de croître et qu'il est temps que l'ordre soit rétabli et que l'État assume son autorité. Extérieur, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus incertain et dangereux, avec un président américain imprévisible, avec une domination commerciale chinoise qui fait peser un danger sur notre prospérité, et avec surtout un danger immédiat et mortel qui est le développement du totalitarisme islamique, qui constitue une menace pour la paix dans une grande partie du monde.
Notre pays est aujourd'hui dans une situation inédite. Face à une menace, le risque djihadiste totalitaire, face à des transformations radicales, le numérique, la transformation climatique et environnementale, face à des doutes qui le minent, le clivage classique, les partis classiques, celles et ceux qui, depuis des décennies, n'ont pas réussi à résoudre les problèmes d'hier, n'y arriveront pas pour demain. Le projet que je porte, c'est d'abord un projet d'alternance profonde, avec de nouveaux visages, de nouveaux usages. C'est un projet qui a confiance dans le pays, dans son énergie. C'est un projet juste. Un projet efficace, un projet porteur d'espoir.
Moi, je veux être la présidente de la République française, mais vraiment. Je n'aspire pas à administrer ce qui serait devenu une région, une vague région de l'Union européenne. Je ne souhaite pas être la vice-chancelière de Madame Merkel. Je ne souhaite pas non plus être la VRP de telle ou telle multinationale ou de tel ou tel grand groupe. Je veux être la présidente de la République française qui respecte à nouveau l'article 5 de la Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
Et voilà, François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen tout à l'heure sur TF1. Nous reviendrons largement demain matin sur ce premier débat télévisé de la campagne présidentielle avec Christine Moncla dans les journaux et les invités de Guillaume Erner dans les matins de France Culture. La campagne qui n'empêche pas le gouvernement Hollande de proposer de nouvelles réformes. Ainsi, la ministre des Familles, Laurence Rossignol, veut-elle protéger les adolescents de la pornographie sur Internet? Une réunion est prévue demain pour évoquer les solutions techniques possibles. Laurence Rossignol est l'invitée de notre journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Laurence Rossignol, selon un sondage IFOP pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, un tiers des 13-14 ans ont déjà vu un film pornographique sur Internet via l'ordinateur, le smartphone ou la tablette. Chez les 11-12 ans, cette proportion est de 1 sur 7. Alors, est-ce que vous êtes surprise par ces résultats ?
Surprise, non, mais ce que j'observe, c'est que l'âge de première exposition diminue, l'âge de visionnage diminue, et qu'un nombre important de jeunes, ce sont des mineurs qui ont entre 11, 13, 15 ans, ont déjà été exposés à des images pornographiques. Et ce que je savais déjà par les différents remontées qui étaient arrivées jusqu'à moi, c'est qu'un nombre important de jeunes filles posent des questions qu'on pourrait qualifier d'incongrues sur la sexualité, en particulier au cours des cours d'éducation sexuelle que font les associations dans les établissements scolaires, et en particulier interrogent sur leur devoir de se soumettre à des pratiques sexuelles qui sont directement inspirées des films pornographiques. Donc ce que l'on observe, c'est qu'il y a aussi une augmentation des violences sexuelles commises par des mineurs, et tout cela mis bout à bout m'a amené à réagir et à considérer que maintenant c'était devenu un sujet de société qui interpellait également les pouvoirs publics.
Alors justement, pour vous, c'est une évidence, les moins de 15 ans ne doivent pas pouvoir visionner des vidéos pornographiques en ligne ?
Ce qui est pour moi clair, c'est qu'il faut protéger les enfants de l'exposition précoce à des images pornographiques. Parfois, elles sont involontaires. C'est le cas des fenêtres qui s'ouvrent pendant qu'un enfant est en train de regarder un film en streaming. Parfois, c'est la facilité d'accès à des sites internet où il suffit juste de cliquer sur « Est-ce que vous êtes majeur ?» répond oui, et un enfant peut regarder des images extrêmement brutales. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut protéger nos enfants. Parce que les images de sexualité, et surtout avec ce que l'industrie pornographique véhicule comme violence, comme dégradation des femmes, comme atteinte au consentement, ces images-là ne doivent pas aller jusqu'aux enfants. Parce que la sexualité, chacun doit faire son propre parcours par lui-même. Et l'intrusion de ces images dans le psychisme d'enfants trop jeunes perturbe leur construction.
Internet, par définition, n'a pas de frontières. Alors comment comptez-vous faire pour restreindre l'accès aux sites pornographiques en France ?
Écoutez, je réunirai demain un atelier, un workshop qui rassemblera à la fois des geeks, des gens qui sont très forts en nouvelles technologies, des ingénieurs et aussi des juristes pour justement réfléchir aux moyens qu'on a sur le plan technologique et juridique. Ma première observation, c'est que la technologie est sans limite quand il s'agit de gagner de l'argent. En revanche, j'entends souvent dire « Ah mais non, c'est pas possible de protéger les enfants des images pornographiques ». Je me dis que cette richesse absolue de la technologie doit aussi pouvoir être mise au profit de la protection des enfants. Et puis, il existe déjà le contrôle parental. On sait qu'il est très peu et très insuffisamment utilisé sur les ordinateurs ou les tablettes ou les téléphones portables des enfants. Et parmi les pistes que je mettrai en discussion demain, il y en a une qui est l'installation d'un contrôle parental par défaut sur tous les logiciels et tous les appareils. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un ordinateur ou un smartphone, le contrôle parental serait installé et il faudrait le débloquer, ce qui est la démarche inverse de celle de devoir l'installer. Et je pense que dans ce cas-là, les parents pourraient plus facilement maintenir le contrôle parental sur les appareils de leurs enfants.
Mais tout de même, Laurence Rossignol, les adolescents sont rompus au numérique. Ils pourront sans doute rapidement trouver le moyen de déjouer ce contrôle parental.
Oui, sans doute, mais on dit ça de toutes les lois pénales, peuvent être contournées. Ces principes même dans une démocratie, on peut toujours contourner les lois pénales. Pour autant, il y a des interdictions de vitesse, il y a des gens qui les dépassent, mais on maintient les interdictions de vitesse. Bien sûr, les enfants sont rompus au numérique, mais pour le moment, les enfants qui sont soumis sur leurs ordinateurs à un contrôle parental n'ont pas encore tous trouvé le moyen de le contourner. Donc, je pense qu'il faut déjà se donner les moyens technologiques, les moyens juridiques, et puis après, il y aura toujours, de manière marginale, des gamins plus malins que les autres qui arriveront à contourner. Mais c'est pas le sujet. Il faut partir de la loi et d'un dispositif pour le plus grand nombre et avoir confiance dans le fait qu'on peut limiter l'accès des mineurs, des très jeunes, aux images pornographiques.
Laurence Rossignol, vous n'avez pas peur d'être accusée de restreindre la liberté d'expression ?
Je ne vois pas le rapport entre la liberté d'expression, la pornographie et l'exposition des enfants à ces images pornographiques. La liberté d'expression est une chose et le devoir de protection des enfants est de ma responsabilité. J'assume cette responsabilité et je ne porte atteinte en cela à aucune liberté d'expression. Et regarder une image pornographique quand on a 11 ans ne relève pas de la liberté d'expression. Ni de celle de l'industrie pornographique, ni de celle de l'enfant qui le regarde.
Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Un mot de la météo. Demain, pluvieux et nuageux sur presque tout le pays. Seules les régions méditerranéennes devraient bénéficier d'un ciel ensoleillé. Température maximale en baisse, 9 à 11 degrés sur la moitié nord, 10 à 16 degrés sur le sud-ouest, 15 à 21 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.